Sur le sujet suivant, qu'est-ce qu'une bonne source d'information en rapport avec les médias? Les médias sont-ils une bonne source d'information? Avec la question un peu provocatrice de faut-il interdire les médias comme source pour le fact-checking sur Captain Fact? Enfin, provocatrice, pourquoi pas, peut-être pas, d'ailleurs. Donc, suite à cette petite heure de réflexion en sous-groupe, on a trois rapporteurs. On a donc roulement de tambour, parce que les autres groupes ne savent pas qui sont les rapporteurs des autres groupes. Donc, on a Melk, qui est rapporteur du groupe C, c'est ça?
C'est ça.
On a Twiz, rapporteur du groupe A, c'est bien ça?
Oui.
Yes. Et dans le groupe B, j'ai pas bien compris, c'est... Qui est-ce qui fait le rapporteur? Ah. J'avais annoncé Mira comme rapporteur, mais c'est ça ou pas?
Mira n'a pas de micro, je crois.
Qui est le rapporteur du groupe B? Ce serait dommage qu'on n'ait pas de rapporteur au groupe B.
Bon, en tout cas, il y a un fichier texte.
Bon, ben...
Ashira dit que c'est Mira.
Mais d'autres disent que Mira n'a pas de micro. Bon, on va voir. En attendant, du coup, c'est bien parce que j'ai un petit document juste avant qui dure 3 minutes que je voudrais vous montrer, juste qui ne va pas influencer sur la production des rapporteurs normalement puisque ça se termine par une question. Mais en même temps, ça fait une petite introduction aux futurs propos des rapporteurs. Ce document, c'est une vidéo. En tout cas, là où je l'ai calée, elle est très courte. Il faudra vous arrêter à 10 minutes 28. Je vais vous donner le lien de la vidéo calée au bon endroit. Vous pouvez soit la suivre en direct, là, comme je vais la passer en audio, vous aurez l'audio de la vidéo. Ou alors couper l'audio et écouter chacun de votre côté le propos. Le propos que je vais donc mettre dans le chat livre blanc et que je vais lancer donc la vidéo. Et normalement, vous pourrez tous écouter ce qu'il s'y dit. Donc, la vidéo est la suivante. C'est Étienne Klein qui nous parle. Et donc, je vais lancer... Si vous lancez de votre côté, vous pouvez, mais ne dépassez pas les 1h10 et 28 secondes. Ça ne sert plus à rien. C'est parti, je lance le propos.
Comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Et on l'a su il y a très longtemps, hein, bien avant de voir par des photos satellites qu'elle était ronde. En fait, on a toujours su qu'elle était ronde. Je veux dire par là qu'il y a toujours eu des gens qui savaient qu'elle était ronde. La question, c'est comment ils le savaient? C'est évidemment pas en regardant la forme de la mer quand on est sur une plage. C'est pas très convaincant. Donc ils l'ont su autrement. Comment? On le sait pas. Enfin, si on le sait. Mais on vit sans avoir besoin de le savoir. Parce qu'on l'a entendu dire, parce qu'on l'a vu sur des photos. Mais vous savez qu'il y a des gens peu nombreux qui s'appellent les platistes qui pensent qu'elle est plate. Et eux, ils ont beaucoup d'arguments. Donc si j'organise un débat entre l'un d'entre vous et un platiste, il va vous rétamer. Autrement dit, il faut qu'on acquiert tous ensemble une meilleure connaissance de nos connaissances. Parce que sinon, on va les confondre avec des croyances. Moi, j'ai rien contre les croyances, tout le monde a des croyances. J'ai des croyances. Mais je sais qu'il y a des connaissances qui ne sont pas des croyances, qui ont été, en quelque sorte, démontrées dans l'histoire des idées par des discussions, des expériences, des observations, des calculs, des preuves. Et dans ce climat actuel que je ressens de façon un peu douloureuse, je vois bien que les différences entre connaissances et croyances ne sont pas vraiment évidentes, puisque dans les mêmes canaux de communication circulent des croyances, des connaissances, scientifiques ou pas, des commentaires, des opinions, des fake news. Comment est-ce que vous allez vous y retrouver? Si Trump dit il n'y a pas de changement climatique, je sens que ça va se refroidir.
Voilà, donc c'était pour introduire un petit peu tout ça. Donc on va demander maintenant au rapporteur de nous dire un petit peu ce qui ressort des petites réflexions en sous-groupe. J'ai toujours pas de réponse sur le groupe B, donc on va commencer par le groupe C. Est-ce que le groupe C, donc Melk, est-ce que tu veux bien te lancer? Si tu veux bien nous expliquer à tout le monde ce qui s'est dit et ce qu'il en ressort.
Ok. On a commencé à se focus sur la première question, qui était qu'est-ce que la bonne source? On en a tiré quatre grands points que d'ailleurs on retrouvera dans les deux autres questions suivantes. Le premier point, c'est que généralement, une bonne source sera plutôt un fait qu'une opinion. Ensuite, le deuxième point, c'est que ce fait pourra être recoupé et confirmé par d'autres, que ce ne sera pas un fait isolé. Le troisième point, c'est que c'est un fait dont on peut identifier l'origine et son contexte. On soulève par là le côté que l'anonymat va être problématique. Et enfin, quatrième point, qui est important, c'est que c'est un fait que le temps confirmera, dans le cas d'une bonne source. Et ces quatre points, on va voir qu'on les a retrouvés ensuite avec la deuxième grande question qui était « Les médias sont-ils une bonne source ?» Alors déjà, rapidement, on a passé en revue ce qu'on entendait comme médias. En gros, dans notre groupe, on entendait ça comme étant les journaux, les réseaux sociaux et les journalistes indépendants. Alors pour répondre à la question « Les médias sont-ils une bonne source ?» le constat qu'on a fait d'entrée, c'est beaucoup moins qu'avant, dans le sens notamment où les images sont beaucoup plus trompeuses qu'avant et qu'on peut beaucoup moins se les tenir pour acquis. Fact-checking, progrès technologique, tout ça. En deuxième temps, on se rend compte que malheureusement, de notre point de vue, les médias, dans les mauvais cas, ne donnent pas tant de l'information ou un fait qu'une manière de l'entendre. Ce qui va du coup être problématique. Et puis enfin, ce qui pose problème, et que les médias ne sont pas forcément une bonne source, c'est que pour le cas même de choses sur des documentaires, ça peut être sujet à la censure, ça peut disparaître. Après, le bon point avec certaines plateformes, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut archiver des choses sur le web, donc que tout ne disparaît pas. Mais on retombe sur la même problématique que pour qu'est-ce qui est une bonne source avec est-ce que les médias sont une bonne source. De la même façon, on préférera qu'ils nous exposent des faits plutôt que des opinions, que ces faits puissent être recoupés, qu'ils ne soient pas les seuls à les dire, qu'on puisse identifier l'origine et le contexte de même des faits qu'on nous donne, qui est le média qui nous parle, dans quel contexte il nous dit ça, est-ce qu'il y a un but peut-être à ce qu'il nous dise ça, etc. Et est-ce que le temps nous fera revenir ou pas sur ce qu'a dit ce média? On a plein d'exemples où, en revenant sur des déclarations, les médias s'étaient plantés. Et puis, troisième question, que devrait être la place du fact-checking? Alors, pour nous, le premier point auquel on a pensé, c'est que ça nous fait gagner du temps, parce qu'on ne peut pas tout vérifier tout seul et tout savoir. On considère que c'est important le fact-checking dans le sens où seulement si on se rend compte qu'on n'essaye pas de nous persuader de quelque chose, mais de nous en convaincre. Et que du coup, ce qu'on nous présente ne soit pas teinté, idéalement, et encore plus idéalement, ne soit pas désintéressé. Et encore une fois, la possibilité que cela puisse être recoupé, voire même par nous-mêmes. Un des points qui nous a fait tiquer sur le fact-checking, c'est que celui qui reçoit le fact-checking puisse avoir accès aux protocoles de vérification et les comprendre, si besoin. Et donc, autant pour répondre à la question « Les médias sont-ils une bonne source ?» que devait être la place du fact-checking, dans tous les cas, on a réalisé qu'on se reposait malgré tout sur une jauge de confiance qu'on accordait ou non à des médias ou à des fact-checking, et que cette dose de confiance, elle se résumait aux quatre points qu'on avait d'abord abordés, à savoir des faits plutôt que des opinions, des faits qui peuvent être recoupés et confirmés par d'autres, des faits qu'on peut identifier, l'origine et le contexte, et enfin des faits que le temps vienne confirmer. Voilà, on a fait le tour.
Bravo.
Super, et merci beaucoup pour le retour à la fin de ces quatre points, comme ça c'est très clair, super clair.
Yes.
Merci beaucoup. Alors là, j'hésite à demander des réactions ou plutôt à passer d'abord sur les rapporteurs. Non, je pense qu'on va plutôt rester sur les rapporteurs. Comme ça, après, on pourra partir dans l'improvisation. Alors, j'ai Mira qui nous a proposé un retour du groupe B. Et donc, comme vous n'avez pas de rapporteur, je vais me permettre, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de désaccord, je vais me proposer de vous le lire. Si vous n'êtes pas d'accord, celui qui n'est pas d'accord se manifeste maintenant ou se taise à jamais. Donc, selon le groupe B, qu'est-ce qu'une source fiable ? Une source fiable, c'est d'abord quand la source provient de plusieurs personnes intérieures au sujet, intérieures au terrain. Des gens qui étaient sur place, en gros. Quand la source provient de témoins directs. Quand les sources provenant de différents partis pris apportent la même information. Croiser les sources. Donc, quand des sources proviennent de différents partis pris, mais apportent la même information. Donc, on peut peut-être parler de consensus ou d'axiome, spécial dédicace à l'ours. Effectivement, des gens qui d'habitude ne sont pas d'accord, mais qui finissent par l'être. Effectivement. Troisième point, une source fiable, c'est quand la source provient d'un organisme transparent sur ses intérêts, ses financements et sa structure décisionnelle. Donc là, on parle des conflits d'intérêts. On peut aussi penser à la phrase « d'où tu parles »,« d'où je parle », savoir si c'est quelqu'un qui travaille pour tel ou tel organisme ou pas. On parle donc des conflits d'intérêts dans le troisième point. Dans le quatrième point, quand la source n'a pas de biais d'intérêt par rapport au sujet traité, d'après le point précédent. Oui, donc on est encore sur le conflit d'intérêts, effectivement. Cinquième point, quand la source provient d'un organisme sous une certaine forme de contrôle citoyen. Donc là, on parle du contrôle citoyen et d'un organisme, donc quelque chose d'organisé. Alors je pense que là, on peut penser à Captain Fact. Hein. Un contrôle citoyen. Alors pour ceux. J'en profite d'ailleurs. D'habitude, on demande à ce qu'il n'y ait pas de publicité sur le Discord. Mais là, il y a quand même un partenariat très intéressant et de longue date avec Captain Fact. Donc, si Mira ou quelqu'un peut envoyer le lien vers le site Captain Fact, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que vous connaissez tous, mais effectivement, la façon dont il est fait me fait penser à ce cinquième point, quand la source provient d'un organisme sous une certaine forme de contrôle citoyen. Effectivement, à titre personnel, je trouve que Captain Fact, c'est très clair. Merci pour le lien, Nevjoya. C'est très facile de capter comment ça fonctionne, et d'ailleurs c'est très facile d'y participer. Et effectivement, on encourage tout le monde à pas seulement critiquer les médias et critiquer les difficultés de s'informer, mais aussi d'œuvrer un peu, d'agir un peu et de participer à Captain Fact. C'est pour le bien de tout le monde. Autres idées. Organisme de fact-checking interne. Responsabiliser le média. C'est une idée à creuser, effectivement, qui ouvre sur pas mal de réflexions. Et enfin, faciliter la vérification de l'information par le citoyen. Je repense encore à Captain Fact. Donc, si je copie un petit peu sur la méthode de Melk, qui était très claire, si je fais un retour sur les quatre points principaux qui ressortent de tout ça, c'est donc le témoin direct quand la source provient de plusieurs personnes. Non, des témoins directs. Quand il y a des témoins directs. Ensuite, quand on croise les sources, surtout quand des personnes d'habitude en désaccord se mettent d'accord, le consensus. Ensuite, les conflits d'intérêts à faire attention et à rendre transparent. Et enfin, un espèce de contrôle citoyen, une organisation qui permet aux citoyens de contrôler un peu la source, contrôler au mieux la source. En gros, la transparence. Est-ce que Mira ou quelqu'un d'autre peut me dire si j'ai bien retranscrit les idées ou s'il y a des corrections à faire? Pas mal, Captain Fact qui réfère au terme CF. Et yes, ben tu sais quoi, ben moi je n'avais pas non plus capté. Merci l'autre poutre. Ok, si personne me dit que j'ai mal retranscrit, c'est que ça doit être pas mal. Et donc on va pouvoir laisser la parole à Twiz du groupe A, si je m'abuse.
C'est moi qui prendrai la parole parce qu'il ne veut pas trop parler.
Yes. Merci HKMen. Quand tu veux.
Alors du coup, je vais vous lire la conclusion. Ça va être assez rapide, ces trois points. Donc la première chose qui s'est dégagée de la discussion, c'est... Vous m'entendez bien en fait ?
Très bien.
Parfait. Donc c'est deux catégories de sources. Donc les sources dites primaires et sources dites secondaires. Deuxième point, c'est la conclusion que les médias français ne peuvent pas être considérés comme une source aujourd'hui fiable. Ils comportent de nombreux biais, donc des biais économiques et politiques. Et en ça, ils ne peuvent pas être considérés comme des sources fiables. Et pour finir, donc les sources primaires, elles, peuvent être considérées comme des sources sûres, mais sont difficilement accessibles donc aux lecteurs sans bagage technique. Et enfin, il faut se construire son opinion en croisant un maximum de sources et en gardant un regard critique. Pour être considérée comme une source fiable, une source doit être compétente dans son domaine sur lequel elle s'exprime. C'était tout.
Est-ce que tu peux développer sur les médias français ? Il y a Olifax qui demande si les autres médias de d'autres nationalités seraient plus fiables. Pourquoi le média français serait moins fiable ? Dans quelles circonstances vous êtes arrivé à ce propos-là?
Alors, c'est surtout c'était une personne qui avait dit que les anglo-saxons avaient un moins grand problème sur le journalisme d'opinion. Après, je ne sais pas, ça n'a pas été fact-checké, donc je ne pourrais pas dire. Mais voilà, c'était à partir de ce moment-là qu'on dit, on était parti sur les médias français en tant que tels.
Peut-être que la personne qui a mis ce sujet-là sur la table dans votre groupe peut préciser un peu le propos.
Allô, oui. En fait, la précision du propos, c'était surtout que, en fait, on parlait de qu'est-ce que c'est un journalisme, qu'est-ce que ça fait. Et en fait, dans le chat, on a eu le fait que c'est quelqu'un qui passe des interviews, qui présente le journal ou quoi que ce soit. Mais aussi le fait que c'est des personnes qui vont aller chercher l'information. En fait, du coup, il y a vraiment... on se disait, pour une question de vocabulaire, il y a un glissement sémantique sur ce qu'est un journaliste aujourd'hui en France, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de journalistes d'opinion qui ne vont pas vraiment sur le terrain, qui ne font pas grand-chose, et surtout que dans l'incorporation des journalistes français, c'est ce qu'on retient. Et je trouve personnellement que c'est moins le cas dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, on connaît des noms de grands reporters. On a beaucoup plus de mal d'avoir des noms de grands reporters français. Donc, c'était surtout le fait que, c'est le microcosme journalistique qui pousse à avoir pas mal, voire plus, de journalisme d'opinion en France. Qui s'exprime pas vraiment sur quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé et comment on sait ça. mais plus sur qu'est-ce que ça veut dire politiquement, qu'est-ce qu'il faut en tirer, quelle analyse on peut en faire.
En gros, il ressort de votre groupe que les médias français sont malades, en fait.
Bah, pas que français, mais pas forcément que français. Mais après, je faisais une comparaison entre les uns et les autres. C'est sur un point très spécifique, tu vois.
Alors, il y a une petite levée de bouclier sur ce propos de médias français qui seraient malades. Rien ne veut dire, c'est le pseudo rien ne veut dire. Qui dit « Vous distinguez le travail d'investigation avec le journalisme d'opinion ?» Oui, mais l'investigation d'un journaliste n'est-elle souvent pas une source fiable et confirmée pour reprendre les arguments avancés plus haut ? On a aussi Olifax qui nous dit que le Thinkerview étant un média est français, donc peut-être n'est-il plus fiable ? Il y a beaucoup de réactions, tu vois.
Oui, oui, non, mais après, le jour où Thinkerview fera... les audiences de France 2 ou de France 1 à 20h, on en rediscutera, je pense.
Alors là, il faudrait peut-être vérifier, mais je crois qu'en termes d'audience, je pense que les meilleures vidéos n'ont rien à envier à France 2.
France 2, c'est 4 millions de personnes tous les soirs. Enfin, c'est quelques millions. C'est peut-être pas 4, mais c'est quelques millions tous les soirs.
Alors, en tout cas, petite parenthèse, c'est intéressant hein, ce qui se dit là. Petite parenthèse, le débat peut reprendre tout à fait normalement comme on en a l'habitude. On est très nombreux, 35. On a l'infographie et n'hésitez pas. Hein, si vous entendez des blancs dans la conversation, vous pouvez prendre la parole sans la demander. Si vous voyez que ça parle beaucoup, vous pouvez utiliser les infographies. Et intervenir.
Pour réagir sur Thinkerview, l'une de ses plus grandes richesses, c'est le temps passé pour l'interview, qui est... J'ai du mal à trouver des exemples comparables d'entretiens aussi profonds.
Alors, il y a Nevo Joyak de Captain Fact qui réagit à une phrase de Paradigme. Paradigme qui dit Thinkerview, c'est des personnes 100% focus sur l'interview. Et Nevoya qui dit, avec une petite langue tirée, puisque c'est une question provocatrice et peut-être moqueuse, ou juste pour ouvrir une réflexion, Nevoya, il dit « source ». Source, c'est-à-dire, c'est quoi la source pour dire que Thinkerview, c'est des personnes 100% focus sur l'interview ? Alors, c'est une blague, mais ça n'empêche qu'il y a eu aussi, on a entendu aussi beaucoup les critiques de gens sur ce Discord, qui disent non mais il y en a marre de toujours demander des sources. Moi mon avis c'est ça et je vois pas pourquoi mon avis serait pas une source intéressante. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir rencontré ce genre de personnes qui finalement remettent en cause l'intérêt d'avoir une source.
Alors, juste, ça se prononce Najoa, mais sinon, appelle-moi Mathieu. Merci.
Ah, merci. J'attendais que tu me le dises.
Et puis, pour alimenter le débat, au niveau des affirmations comme ça, alors bon, comme on dit, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Là, ce que Paradigme m'a dit, bon, c'est peut-être pas totalement vrai, mais... Je pense qu'il y a un fond de vérité. Après, c'est vrai que sortir une info juste comme ça, sans l'étayer par une source, quand on est dans le fact-checking et quand on veut que se baser sur des faits, c'est quand même dommage de donner une opinion.
Alors Nevoya, justement, vous qui êtes bien dans le moteur de Captain Fight, c'est quoi vos problématiques à vous? Parce que finalement, on voit le site internet tel qu'il est fait, très bien fait d'ailleurs, bravo. Il est facile d'utilisation, mais du coup, on ne voit pas la partie immergée de votre administration. Quelles sont vos problématiques? Est-ce que vous vous posez des questions sur ce sujet, etc.?
Là, la plus grosse problématique qu'on a eue, c'est surtout le fait que, quand on voit sur le petit graphique, que la source majoritairement utilisée, c'est Wikipédia, et on peut se questionner sur la fiabilité de la source. Mais en même temps, le site est là pour... dans le fonctionnement du site, de toute façon, les sources sont... vérifier en quelque sorte la fiabilité des sources sont vérifiées par le système de vote. Donc au final on se pose plus la question pour alimenter un débat, mais dans notre fonctionnement de Captain Fact, au final on arrive à s'en sortir quand même sans trop de problèmes.
Dites, une question pour Captain Fag, du coup. Nous, dans notre groupe, on a eu la mention d'une vidéo qui avait été prise en charge par Captain Fag, où, en fait, ce qu'on voyait dans les ajouts de Captain Fag, c'était pas vraiment du fact-checking, c'est-à-dire est-ce que les faits se sont bien passés comme ils se sont passés, comme... ils sont exprimés dans la vidéo, mais qu'il y avait plutôt une analyse politique derrière, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce que dit la personne ne devrait pas être vrai. Et là, on a un argument politique qui arrive, ou une opinion. La question, c'est est-ce que pour vous, vous êtes encore dans le fact-checking quand vous faites ça, ou est-ce que c'est juste une erreur qui viendra être modifiée au fur et à mesure que Captain Fact avance?
Déjà, j'aimerais savoir de quelle vidéo tu parles exactement. Et deuxièmement, si quelqu'un a plutôt tendance à donner des opinions que à vérifier les faits, dans le système de Captain Fact, il va normalement, inévitablement, finir par avoir des votes négatifs qui vont contredire ce qu'il a dit. Et du coup, dans l'extension déjà de Captain Fact, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, il y a une extension qui permet d'afficher les faits vérifiés en direct sur les vidéos sur YouTube. Et dans l'extension, ça ne sera pas pris en compte si le commentaire a eu trop de votes négatifs, ou même si le commentaire n'a pas eu du tout de vote. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire que un commentaire qui n'a pas encore été vu serait pris en compte, alors qu'il ne faudrait pas. Et du coup, à force, avec le temps, effectivement, les votes négatifs feraient couler, entre guillemets, les commentaires de cette personne. Et en plus, si une personne fait trop de commentaires dans ce genre-là, ça va lui faire perdre de la réputation avec les votes négatives et dans le système de Captain Fact, il ne va plus pouvoir faire beaucoup d'actions sur le site à cause de ça. Et j'ai une dernière chose que je voulais dire, je ne sais plus. Mais voilà, en gros, normalement, le système est fait pour que ce genre de comportement ne soit pas avantagé. Et si, ce que je voulais dire, c'est que Captain Fact est encore relativement jeune, on n'est pas encore assez nombreux pour vraiment tout vérifier, et du coup, ça peut prendre un peu de temps avant que, effectivement, ça soit voté négativement, etc. Mais on travaille là-dessus.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez un système pour essayer de déceler parmi vos participants qui deviennent, bon, pas des sources primaires, du coup, comme disait le groupe A, je crois, il y avait les sources primaires, les sources secondaires. Donc, quelque part, vos participants, ce sont des sources secondaires, puisqu'ils vont chercher les sources ailleurs. Mais parmi ces gens-là, vous faites encore un espèce de petit classement entre les bonnes sources et les mauvaises sources, quoi. Les bons membres et les mauvais membres. Ceux qui ont dit plus de bêtises et ceux qui en ont jamais dit.
Oui, c'est en gros, c'est ça. Effectivement, hein, sur Camelot Fact, par principe, c'est forcément une source secondaire, puisque pour réfuter ou confirmer une affirmation, il faut donner une source, de toute manière. Donc on peut pas juste dire, voilà, je sais, voilà ce que je sais. Ça, c'est pas possible. Alors on peut le mettre en commentaire, mais ça ne sera pas pris en compte comme confirmation ou réfutation. Il faut forcément une source qui va avec. Et ensuite, avec le système de vote, effectivement, les autres fact-checkers sur Cat & Fact peuvent tout à fait, s'ils sont d'accord et qu'ils pensent que la source qui a été donnée est fiable, est correcte, ils peuvent donner un vote positif aux commentaires, ce qui va donner des points de réputation à la personne qui a mis ce commentaire, ou un vote négatif qui va du coup enlever des points de réputation. Et ensuite, il y a tout un système avec la réputation, relativement simple, hein, qui fait que quand vous avez quand vous dépassez un certain palier de réputation, vous avez de disponible plus d'actions sur le site, et des actions plus importantes. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et si quelqu'un, malheureusement, tombe dans le négatif en réputation, ben dans ce cas-là, ses actions seront très limitées, voire à moins 30, à partir de moins 30 en réputation, on ne peut plus rien faire du tout. Et du coup, c'est comme ça, plus ou moins, que sont bloqués les mauvais comportements sur Cat & Fact.
Melk ?
Oui, je voulais préciser un point auquel je pense beaucoup depuis qu'on discute de tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il se dégage un peu deux sources ou deux informations qui n'ont pas tout à fait les mêmes modalités d'acceptation. D'un côté, des sources qu'on peut vérifier soi-même, et de l'autre, des sources ou des informations à qui on doit s'en remettre au jugement, par exemple, de quelqu'un. D'un côté, avec ce qu'on pourrait vérifier soi-même en termes de sources, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de les valider, du coup. Typiquement, pour des sources qu'on pourrait vérifier soi-même, là, il est indispensable qu'on ait accès aux faits et pas à des opinions, et que du coup, on puisse identifier l'origine de ce fait, et que du coup, il y ait de la transparence sur ce fait, qui ne soit pas flouté. Et en plus, qu'on puisse accéder, même si on va fact-checker ou sur des plateformes, qu'on puisse accéder à ces protocoles. En gros, il faut qu'on ait vraiment à notre disposition les moyens et les outils. Et du coup, dans ce cas-là, à la rigueur, il me semble que on peut se fier à son propre jugement, juste en se reposant sur de la logique et de la compréhension. Et à l'inverse, pour des sources à qui on doit s'en remettre à quelqu'un, c'est d'autres leviers qui entrent en jeu. Là, pour le coup, le point capital, en fait, ça se résume à la confiance. Et dans ce cas-là, en plus, on peut plus ou moins se permettre de considérer des opinions. Parce que comme de toute façon, les faits ne sont pas forcément compréhensibles, on peut tenir compte de l'opinion d'autres. Alors que dans le premier cas, quand on pouvait directement accéder et comprendre les faits, à la rigueur, on s'en fiche des opinions. Parce que nous, on peut se faire la nôtre directement. Dans le deuxième cas, si ça ne nous est pas compréhensible et qu'on doit s'en remettre à d'autres, avec la notion de confiance, apparaît l'importance peut-être des opinions. En plus de ça, c'est que du coup, pour qu'on puisse s'en remettre à d'autres, une parole ne suffira pas. Là où avant, notre propre expertise pouvait suffire, si on doit s'en remettre à d'autres, il y a une condition, c'est que du coup, on puisse recouper avec d'autres sources, qu'il y en ait d'autres qui disent ça. Et qu'en plus, idéalement, il y ait un éclectisme dans les sources. Par exemple, si idéalement des personnes opposées politiquement en arrivent à des conclusions similaires, ça pourra plutôt donner du crédit, même si nous, on ne sait pas quoi en penser. Et enfin, du coup, pour ce qui fait la confiance pour des sources ou des infos où nous, on pourrait pas, on devrait s'en remettre à quelqu'un, eh ben, c'est le temps qui fait que ça peut apporter du crédit et de la confiance. Et voilà, ça me faisait penser qu'il y a quand même des faits et des sources un peu différentes. Hein. Celles qu'on peut nous-mêmes avoir un accès et une main, une mise dessus, et celles où on ne peut pas. Et comme je viens de le développer, ben, du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes leviers.
C'est vrai que quand tu as rapporté le propos de ton groupe, Melk, tu as parlé du temps. Effectivement, c'est peut-être une notion importante. Effectivement, parfois le temps passe et nous donne des confirmations et nous donne de la confiance envers des gens qui se sont exprimés. Je vais donner la parole à l'outre-poutre, mais je pose une question. La question de Brassens qui nous dit « Sur Captain Fact, des fois, plusieurs personnes se réfutent et on voit du confirmé vert et du réfuté rouge, pour un même propos. Il y a-t-il moyen de faire une section plus grosse ou de couleurs différentes pour avoir l'avis définitif de la section pour voir quelle personne l'a emporté finalement ?» Que quelqu'un peut répondre.
J'ai répondu par écrit, mais je peux le faire par oral aussi. Quand c'est comme ça, effectivement, ça manque un peu de lisibilité sur les réponses des uns et des autres. Mais comme je l'ai dit par écrit, en fait, ça va être plutôt l'extension qui va exposer l'avis définitif, entre guillemets, plutôt que la plateforme en elle-même. Parce que c'est pas le même but. La plateforme, c'est celle où on va faire le fact-checking et on va exposer les arguments des uns et des autres. Alors que l'extension, elle, c'est elle qui sert plutôt à exposer le consensus, entre guillemets, ou en tout cas l'avis définitif. Là, je trouve que c'est bien dit. Pour le coup, c'est plus clair sur l'extension. Les couleurs sont plus vives et seuls les commentaires qui sont validés sont visibles. Donc c'est plus sur l'extension que ça apparaît comme ça.
L'autre poutre.
Et c'était pour ajouter au propos de Melk, on a eu comme problématique, on s'est posé cette question suivante, et cette réflexion suivante plutôt, qu'on aura un plus grand indice de confiance, une plus grande foi, une plus grande certitude lorsqu'on aura la méthode et être capable de comprendre la méthode, de comment est transmise une information et comment elle est fact-checkée selon tel type de média ou de fact-checker.
Alors, du coup, il faudrait faire attention aussi à une chose, c'est que fact-checker, c'est difficile et c'est long, on le voit, même que le temps, on parle du temps aussi, alors que finalement, de balancer une idée comme ça ou un propos en disant « oh, c'est prouvé », très facile. Donc ça veut dire qu'on peut vite se retrouver débordé par ce qu'on appelle, je déteste cette expression, mais les fausses nouvelles. On peut vite être débordé par les fausses nouvelles le temps qu'on les fact-check chacune. Et Zilote qui voulait poser une question.
Finalement ma question c'est est-ce qu'on peut laisser n'importe qui faire du fact-checking par exemple sur Captain Fact, est-ce qu'on peut partir du principe par exemple que si on considère que sur Captain Fact il y aura une majorité de personnes avec des idéaux on va dire de gauche, est-ce que ça va pas apporter des biais sur le fact-checking, notamment si on va fact-checker une personnalité de droite voire d'extrême droite? Par exemple, sur l'interview de Laurent Berton de Thinkerview qui a été fact-checké, il a dit la phrase suivante. À peu près 2/3 des crimes et délits commis en France sont commis par des individus issus de l'immigration. 2/3 des crimes et délits en France. Et dans le fact-checking, les gens réfutent en disant 2/3 des mineurs poursuivis par le parquet de Versailles étaient nés de parents à l'étranger. Donc en fait, ils vont confirmer l'information comme quoi 2/3 des crimes et délits, enfin en tout cas des personnes poursuivies en fait, sont issus de l'immigration, puisqu'ils sont de parents nés à l'étranger, et ils te disent que c'est réfuté. Ça va pas, hein. Ils sont en train de confirmer l'information, et pourtant ils réfutent. C'est quoi le... Enfin, il y a un problème quelque part, non? Du coup, est-ce que le fact-checking peut être laissé à tout le monde? Parce que du coup, par un biais idéologique, ils vont te dire « Oui, mais en fait, ça prend, il dit ça, mais ça prend pas en compte que ça peut être dû au lieu de résidence, échec scolaire, taille des fratries, etc. etc., etc. qu'il peut y avoir d'autres variables. » Alors oui, certes, mais ça n'enlève rien à son propos que 2/3 des personnes ayant commis un crime et délit sont issues de l'immigration.
Autrement dit, Zilot demande si... Si le fact-checking peut pas non plus être une nouvelle couche de source d'influence, comme il a beaucoup critiqué sur Le Monde et le Décodex, puisque effectivement Le Monde étant orienté politiquement, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le Décodex en disant bah ouais, c'est la bien-pensance.
Parce qu'en particulier sur ces sujets-là, c'est difficile d'avoir quelque chose de clair, en fait, d'avoir un avis clair et d'avoir de vraies, comment dire, une vraie information. Souvent, c'est libre interprétation, c'est ça le problème.
Donc, on a Mira qui, peut-être, je crois, veut donner un avis là-dessus.
Vous venez de dire beaucoup de choses et soulever beaucoup de problématiques qui sont super intéressantes. J'en donnerai 3 principales. Il y a donc, qui sont plus ou moins liées à Captain Fact, hein, d'ailleurs. Qui sont donc la représentativité du fact-checking, ou autrement dit la neutralité. Effectivement, sur Captain Fact, qu'est-ce qui se passe quand il y a un raid de gens de gauche ou un raid de gens de droite qui vont aller vérifier un sujet et donc vomir leur idéologie politique aux yeux de tout le monde, typique. Il y a ce sujet-là, il y a le sujet de qu'est-ce que devrait être le fact-checking, et il y a le sujet de, si je me souviens bien, qu'est-ce que sur Captain Fact, un fact-checking définitif, la conclusion, etc. Alors, sur Captain Fact, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque citation, pour chaque info, il y a 2 colonnes en dessous. Il y a les informations qui confirment, ou les sources qui confirment et les sources qui réfutent. Et elles sont à la même hauteur. Les sources qui confirment ne sont pas mises plus en avant que les sources qui réfutent, c'est inversement. Ce qui fait que même s'il y a 20, par exemple, personnes d'idéologie de gauche qui disent que ceci est vrai ou qui disent que ceci est faux, il peut y avoir qu'une personne en face avec l'idéologie opposée qui peut donner une source qui donne le point de vue inverse. Et c'est là, en fait, la particularité de Captain Fact, et c'est là, c'est cet avantage qui est difficile de retrouver auprès d'autres... fact-checkers ou médias qui font du fact-checking, c'est la pluralité du point de vue. C'est sûr, Captain Fact, on ne va pas mettre en avant une conclusion particulière. Les personnes vont sur une citation, vont aller voir une information en cours permanence de vérification, et ils vont avoir les sources qui confirment, les sources qui réfutent. Alors évidemment, il y a un système de vote qui va peut-être afficher qu'il y a peut-être plus de sources qui confirment que de sources qui réfutent, ou inversement. Mais du coup, le but de Captain Fact, ce n'est pas de fournir la réponse toute faite, pesée, pré-mâchée, à venir ingurgiter dans notre cerveau. Non, le rôle essentiel de Captain Fact, c'est de présenter différentes sources contradictoires pour montrer la pluralité des points de vue et pouvoir se faire une opinion par soi-même en observant les deux côtés. Et donc après, l'autre sujet, c'était est-ce que tout le monde peut faire du fact-checking? Ça dépend en fait de ce qu'on attend du fact-checking. L'avantage de Captain Fact, c'est de faire participer les gens. Et le problème de ne pas faire participer les gens dans le fact-checking, comme peuvent le faire la plupart des médias qui font du fact-checking, c'est que ça rend toujours les gens dépendants d'une autorité ou d'un tiers pour réfléchir par eux-mêmes. Alors que sur Captain Fact, c'est contributif, donc on incite les personnes à réfléchir par elles-mêmes. Donc ça entraîne l'esprit critique là où ce qu'on peut reprocher. Après, il y a des médias qui font du fact-checking qui sont super intéressants, qui font fonctionner les neurones, etc. Mais quand on consomme un fact-checking chez un média, on est encore consommateur, on est encore spectateur, on ne pratique pas. Voilà les différentes idées que je voulais partager avec vous ce soir.
Jar Jar qui voulait aussi réagir au même propos.
Ouais, mais je suis plutôt d'accord en fait avec tout ce qui vient d'être dit là. C'était juste pour un petit point sur les décodex et ce type de fact-checker. En fait, c'est pas tant sur l'information ou sur le traitement de l'information en tant que telle que moi personnellement, je trouve qu'ils font pas un bon travail. Et surtout là où on voit leur biais, ouais, là où on voit leur biais, c'est sur le genre de sujet qu'ils vont vouloir mettre régulièrement en avant, en fait. C'est plutôt là que je trouve qu'on va voir qu'il y a une tentative d'influence ou de choses comme ça. Je sais plus qui est-ce qui en parlait juste avant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça si on se repose la question, qu'est-ce qu'une source fiable? Qu'est-ce qu'une bonne source? Et si on répond à la question secondaire, est-ce que, en gros, faut mettre les médias de côté quand on parle de source?
Mais on peut pas mettre les médias de côté quand on parle de source, parce que en soi on est obligé de se reposer dessus, parce qu'on peut pas faire le travail de journalisme de journaliste en permanence, on n'a pas le temps. C'est pas sur tous les sujets en tout cas. Il faut choisir ses batailles.
Et il y avait aussi une notion de confiance dont on a parlé souvent. Est-ce que quand on écoute par exemple Étienne Klein, alors c'est de la science, donc il y a une vérité, il y a une vérité qu'il faut chercher, mais il y a une vérité qui peut parfois être établie, genre comme il disait, la Terre est ronde. Est-ce que il n'y a pas des personnes comme Étienne Klein ou je sais pas, je pourrais citer d'autres personnes. Au hasard, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas confiance, mais par exemple en Jancovici, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont comme dans Captain Fact, des gens qui ont un peu plus de crédit, un peu plus de, je sais plus comment vous avez appelé ça, enfin plus de points de crédit, quoi. Zilot?
En fait, par rapport aux médias de façon générale, j'allais dire, en fait, c'est la question de savoir à quel point ils se trompent souvent, c'est-à-dire quel pourcentage d'erreurs tu tolères chez un média. Si le média il se trompe 50% du temps, bon, tu prendras avec beaucoup de pincettes, voire tu l'écouteras probablement pas lorsqu'il va te diffuser des informations. Si le média se trompe de temps en temps, mais fait amende honorable et réédite ses articles, les modifie en disant nous nous sommes trompés, nous nous excusons et corrige, ou alors font ou en tout cas font une petite publication, un petit édito pour expliquer que à telle date ils se sont trompés, ou alors ils ont fait une erreur, etc. Ils s'excusent. Bon, tu peux leur faire confiance si ça arrive une fois de temps en temps et qu'ils ont un taux de réussite, on va dire, de 90, 95, 98%, je sais pas. Après, par rapport aux personnalités à écouter, comme Étienne Klein, Jancovici, ou ce genre de choses, Étienne Klein, même s'il est très sympathique, je l'écouterai probablement pas pour de la médecine. Parce qu'en fait, c'est pas son domaine. Mais effectivement, sur son domaine, c'est une très bonne source, oui.
L'autre.
Je voulais aussi réagir par rapport aux médias, ce qu'on appelle les médias de masse aussi plus globalement. On peut les considérer comme des intermédiaires ou des médiateurs, donc qui vont transmettre une info, elle sera certainement affectée par une ligne éditoriale et les faits vont être dilués par le point de vue du journaliste ou du pigiste ou de qui la rédige ou qui la filme. Et quoi qu'il advienne aussi, ces types de médias sont plus sujets à la censure que les sources originelles. Et ne pas sauvegarder leurs articles ou ne pas faire appel aux archives va faire que des informations peuvent tomber dans l'oubli ou simplement disparaître.
Là, je vous diffuse un document qui a été diffusé dans un des trois groupes. qui... Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un pourrait commenter ou enfin expliquer ce document, surtout d'où il vient d'ailleurs, puisqu'on essaye de... On parle de sources. Qui est-ce qui a fait ça et comment vous l'avez trouvé et si quelqu'un peut le commenter un peu. Parce que je vois qu'il y a l'AFP, Reuters. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de médias français quand même dedans.
Ouais, vu que c'est moi qui l'ai posté, je vais le dire. Grosso modo, en fait, c'était par rapport à une des réflexions qui avait été faite sur est-ce qu'il y a des endroits qui classifient les médias et leur crédibilité. Donc, du coup, j'avais déjà vu ce document-là qui avait été fait par une personne qui a été sur Twitter, un lien qu'elle avait posté ça. Il faudrait que je retrouve la source. J'avais déjà posté la source sur ce serveur. Je la retrouverai. Et donc, du coup, c'était principalement axé sur les journaux donc en anglais. Après, peut-être qu'il y a l'AFP, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est utilisé comme source dans d'autres journaux. Et du coup, effectivement, c'était globalement une étude de... Alors, je ne sais pas si c'était une étude subjective ou alors objective par rapport à certains faits sur le classement de d'où sont les journaux, dans quelle catégorie politique ils sont politisés et quelle est leur crédibilité.
Alors, d'ailleurs, je viens... Alors, quel est le biais de la source du graphique? je viens aussi alors tenir un propos. On a un autre. Un document, c'est le même.
Il y en a plusieurs et en fait il y a différentes versions. Effectivement, il y a un qui c'est l'original et les autres c'est des dérivés.
D'accord. Ouais, je viens apporter un propos aussi. On a parlé à un moment donné dans la soirée aussi. Ah oui, quand on parlait des médias français et comme quoi ils seraient malades et qu'il faut s'en méfier. Quand on a parlé de ça, salut Nevia. Quand on a parlé de ça, il y a quand même un truc, même si on considère que les médias français sont malades ou pas, il y a quand même un truc qui peut être intéressant à faire aussi, c'est simplement de dire que si un média français parle de la France, il est peut-être intéressant d'aller vérifier chez les autres médias d'autres pays qui seront moins concernés par ça. J'avais un ami qui est membre ici, hein, et qui est membre ici et qui lui me disait c'est simple, quand je veux avoir des informations sur un pays, en général je lis la presse étrangère à ce pays. C'est peut-être pas bête, non? Qui veut dire qu'en gros, pour Captain Fact, comme pour d'autres, oui, on parlait aussi du biais de la source. Est-ce qu'il est utile de prendre comme source peut-être une bonne source, mais sur certains sujets, justement, cette source devient problématique. Et ça, ça doit être difficile. Ça doit être très difficile de faire le tri, quoi. En gros, l'AFP serait très bonne pour commenter certains sujets et très mauvaise pour en commenter d'autres. AFP qui, un jour, je vous le rappelle, dans une situation, alors si on le remet dans un contexte, dans le contexte de l'époque, c'était très tendu de faire ça. Pardon, j'ai éternué. Donc, dans un contexte très très tendu entre les États-Unis et le Venezuela, extrêmement tendu, aussi au moins aussi tendu que celui de l'Irak et des États-Unis à un moment donné, ou aussi tendu que Cuba et les États-Unis pendant la crise des missiles, dans un moment aussi tendu que ça, l'AFP avait quand même diffusé une vidéo d'un discours de Hugo Chavez avec Ahmadinejad, en coupant allègrement les propos et en lui faisant dire exactement l'inverse de ce qu'il disait. Et du coup, ça donnait une déclaration de guerre contre les États-Unis, alors que c'était totalement à l'inverse. L'outre-poutre.
Je me pose la question suivante. Est-ce que de nos jours, est-ce que vous pensez que c'est toujours vrai que plus on est éloigné d'un fait, d'un événement, moins on aura de chances d'avoir une vision exhaustive de ce qui s'y est passé.
Alors là, tu parles du travail de l'historien, effectivement. Ashkamen, je vais te filer la source ici même d'ici peu.
Et c'était autant au niveau temporel qu'au niveau géographique, par rapport à la distance.
C'est vrai que ça peut prendre plus de temps si on n'est pas sur place et qu'on n'a pas toutes les infos.
Pour répondre à ce que tu dis, l'outre, je pense que ça a de moins en moins d'influence par rapport à avant, vu la rapidité de l'information. Tu peux être informé des fois très précisément de choses qui sont à l'autre bout de la Terre. C'est pas parce que t'es pas juste à côté que l'information que tu reçois sera forcément plus biaisée, en fait. Avant, peut-être que avec différents intermédiaires, à chaque fois que l'info circulait, il y avait peut-être de la perte. Aujourd'hui, une même info, elle peut tellement être répandue à toute la surface du globe que c'est vraiment l'info en elle-même à la base qui peut être tendancieuse, mais le fait qu'elle arrive loin ou pas, à mon avis, ne change plus vraiment grand-chose aujourd'hui.
Je vois ce que tu veux dire et je suis entièrement d'accord. Et il y a aussi, mais je vois aussi l'effet, par exemple, des infos locales. Si on reporte ça à l'international, nos médias ou notre perception de l'information sera plus riche, je pense, si on est un pays limitrophe de là où se déroule telle action, tel événement. À nuancer, bien sûr.
Oui, je te rejoins aussi, c'est sûr. Après, dans notre groupe, on avait mis en garde aussi sur le fait que même si, par exemple, une image aujourd'hui peut être vue n'importe où, n'importe quand, et qu'on pourrait croire que ça efface le besoin de proximité pour comprendre quelque chose, bah, l'autre paradoxe, c'est qu'une image a jamais autant été facilement falsifiable avec les technologies qu'on connaît. Du coup, bah, en fait, c'est une autre problématique qui est arrivée.
Et qui aura de plus en plus d'ampleur.
On avait eu une problématique aussi dans le groupe, c'était qu'est-ce qu'on fait avec des informations dont la source initiale ou les faits initiaux seraient par exemple classés secret défense. Dans ces cas-là, où on ne peut plus avoir un accès à la source, qu'est-ce qu'on en fait? On avait opté du coup pour c'est là qu'on tranche la confiance, mais c'est un problème du coup.
Et on peut que spéculer si le secret défense est encore reculé de plusieurs années. Mais c'est vrai que dans le cadre des documents déclassifiés ou des événements type lanceur d'alerte, il y a un rapport à voir.
On s'est rendu compte aussi, quand on se demandait qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en certains médias ou pas, qu'entre en jeu la notion de réputation, en fait. Et c'est à la fois naturel, mais à la fois c'est un gros biais. On connaît tous l'argument d'autorité. Et... ouais.
Et je vois aussi que selon les sources, le traitement d'une information est extrêmement différent au niveau national et à l'international. La perception qu'ont des pays étrangers d'un événement dans tel pays peut varier énormément. Je m'intéresse énormément au consortium de journalistes internationaux, donc de plusieurs pays qui vont étudier telle ou telle affaire.
Un peu comme dans le milieu scientifique, il y a des comités de lecture.
Exactement.
Ok, j'ai donc un grand blanc, je ne sais pas si tout le monde est en pleine réflexion, mais je pense que ça va être le moment, en tout cas, de faire partir notre ami Craig. Mais bien sûr, le débat continue.
Au revoir Craig.
Salut Craig.
Je me pose aussi la question obligatoire de la traduction. Comment est-ce qu'on va percevoir une information et comment est-ce qu'elle va nous être traduite, comment on va la percevoir